Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, ici Armand Dubois, heureux de vous retrouver à nouveau en présence aujourd'hui d'une personne qui s'est fait connaître dans le domaine de la chanson traditionnelle pour avoir créé un duo qui a duré plus d'une décennie, soit 11 ans, de 1974 à 1985, et qui a enregistré également 6 disques pour cette musique dite traditionnelle, dont un pour enfants. C'était le duo Breton-Cyr. Depuis la dissolution de celui-ci, elle s'est principalement consacrée au public jeune dans des spectacles d'inspiration traditionnelle. Elle s'est spécialisée dans les spectacles historiques en vue d'initier les enfants aux grandes périodes de la constitution de leur pays. Vous aurez peut-être deviné le nom de notre invité. Il s'agit de Gaëtan Breton qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Breton-Cyr, ça remonte à... ça évoque de nombreux souvenirs, ça.
Les années 70.
Et c'était Richard Cyr.
Oui, Richard Cyr, qui est décédé, hein.
Ah oui?
Ça fait 5 ans maintenant déjà, oui. Il est décédé à l'âge de 48 ans. Et j'ai perdu un très bon ami,
oui, parce
un collègue.
Ce duo, oui, si ma mémoire est bien vive, faisait de la musique traditionnelle, mais de façon presque a cappella.
Oui, oui. Au début, c'était vraiment a cappella. Richard tapait du pied. Moi, je jouais des cuillères. Puis c'était juste nos voix, même pas en harmonie, là, des voix à l'unisson. On chantait comme ça. On s'est fait connaître comme
et
ça.
Et ça a bien fonctionné.
Oui, lors de la Super Francofête, et on nous avait remarqués. Je pense qu'on nous avait remarqués surtout parce qu'on formait un beau couple dans ce temps-là. Parce que les voix, ça pas des voix extraordinaires, mais on était spontanés. Et c'est les producteurs nous ont approchés à cause de cet ensemble spontané, joyeux, qui représentait vraiment la tradition. Richard avait à ce moment-là à peine 20 ans, et il chantait déjà avec une voix de vieux déjà, là. C'est incroyable.
Il tapait du pied aussi.
Puis à 20 ans, il avait l'air déjà le style du vieux, le bonhomme qui chante. Quand quelqu'un ne le voyait pas, l'écoutait à la radio, je m'en souviens même de Jean-Pierre Coallier, qui était sûr qu'on était déjà des vieilles personnes à chanter comme ça.
Et vous vous étiez connus comment pour former ce duo?
Au cégep de Rivière-du-Loup, on était étudiants tous les deux là-bas. Richard vient de Rivière-du-Loup, moi de la Beauce. Donc, comme étudiant, on faisait beaucoup du parascolaire. On montait des spectacles de poésie et de chansons ensemble. Et c'est lors de ces spectacles-là que Richard avait commencé à chanter de la chanson traditionnelle. Puis j'avais été complètement renversée. Et c'est lui qui m'a amené vers la chanson traditionnelle. Pour moi, c'était des choses désuètes, un peu ringardes, plates.
Mais il faut dire qu'à l'époque, oui, il y avait un engouement réel pour la recherche des origines. Et même au plan de la musique, il y avait ce mouvement nationaliste qui était très présent.
Oui.
Et cette recherche de son identité passait aussi beaucoup par la retrouvaille des vieilles chansons.
Absolument, ça faisait partie de la même vigueur de l'époque. Même en France, c'était un mouvement même général. En France, c'était la même chose. Il y a beaucoup de groupes traditionnels qui sont sortis à cette époque-là. Il y avait vraiment un ensemble mondial, on dirait, la recherche de nos racines, de nos vraies chansons.
Est-ce que vous avez été surpris tous les deux par le succès qui a été presque spontané?
Oui, parce qu'à Super Francofête, on avait un contrat de 10 jours à Québec en 1974. Donc, moi, j'étais contente d'avoir eu ce contrat-là pour 10 jours et ça finirait après. Ça aurait été qu'un bon souvenir. Mais c'était à l'époque aussi, les producteurs avaient de l'audace. Ils cherchaient les nouveaux noms, les nouvelles têtes, les nouveaux artistes. On osait enregistrer. On prenait des chances inouïes à cette époque-là. On croyait à cette nouvelle nation québécoise et oui, à cette nouvelle chanson.
Et c'est presque cyclique parce que, bon, vient un moment où la musique dite traditionnelle s'estompe un peu
plus. Les années 80, oui.
Voilà. Et les années 2000 ramènent lentement cette musique dite traditionnelle. On connaît maintenant l'engouement d'un groupe comme Mes Aïeux.
Oui.
Qui a connu un succès monstre avec une pièce qui a pour titre « Dégénération » et qui fait appel à ce genre de musique.
Exactement. Ah oui, les années 2000, on retrouve énormément de groupes traditionnels qui sont extraordinaires en plus.
Alors écoutons donc Mes Aïeux.
Oui.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendue pour devenir fonctionnaire.
Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident.
Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière, tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire.
Une chanson qui vous rappelle peut-être votre passé au sein du groupe, même si c'est différent.
Oui, mais cette chanson-là, des générations, là, moi, c'est rarement une chanson m'est rentrée dedans comme ça. C'était un coup de cœur, vraiment. Ça m'a rentré dedans, ça m'a fait mal en même temps. Une chanson que je trouvais hyper réaliste. Moi, c'est vraiment mon enfance, c'est vraiment mon histoire familiale. Puis je trouve que vraiment, ils ont trouvé en l'espace d'une chanson... Toute l'histoire du Québec en l'espace de quoi, 3 minutes et demie, 5, 4 minutes, je ne sais pas. Mais...
Ce qui explique le succès fort probablement de cette chanson qui, en même temps, est portée par une musique, comme nous le disions, de tendance traditionnelle, c'est-à-dire
oui,
l'accordéon, le violon,
c'était
tout ça.
C'était le hit l'année dernière, je crois. De résonance traditionnelle.
Et qui est devenue presque un classique lorsqu'il y a des réunions de famille pendant la période des fêtes. On entend cette musique.
C'est un coup de génie de la part de mes aïeux.
un mot encore, parce qu'on aura l'occasion au cours de l'émission de se rappeler le duo Breton-Cyr. Vous disiez que vous avez quand même perduré un certain temps, plus de 10 ans.
Oui, plus de 10 ans, oui. Presque 14 ans, 15 ans, mais ça s'estompait. Des années 80, on a pris Richard et moi chacun notre direction. Oui.
Mais vous avez parcouru la province à ce moment-là?
Oui, on a eu une période effervescente, des années surtout entre 74 et 81, oui.
Qu'est-ce que vous retenez de cette période-là particulièrement?
Oh mon Dieu! C'est une vie facile, en quelque sorte, parce qu'on venait toujours nous chercher, on faisait plusieurs émissions de variété, on avait des spectacles tout le temps, on n'avait pas à se battre pour trouver des contrats. C'était, j'appelle toujours ça mes 7 ans de vache maigre, de vache grasse.
Oui.
Maintenant, quand on veut quelque chose, il faut se battre pour faire sa place. Tandis que là, c'était tellement facile que les vaches, finalement, les vaches maigres ont suivi les vaches grasses parce qu'on n'a pas prévu le coup, Richard et moi. Où on va après? La bottine souriante l'avait prévu le coup. Ils ont évolué, ils ont amené des cuivres dans leurs ensembles, dans leurs groupes. Ils ont continué à évoluer, tandis que nous, on s'est retrouvés à plat. Donc, il n'y avait plus de place les années 80 pour la musique traditionnelle, puis on ne savait pas comment évoluer. Il n'y a personne qui nous dirigeait, savoir. On aurait pu faire évoluer, composer, aller vers comme Mes Aïeux, par exemple. On aurait pu s'associer avec d'autres styles de chansons, mais...
Est-ce à dire que la fin a été difficile?
Oui, c'était difficile pour Richard et moi, oui. Mais moi, ça tombait bien dans un sens aussi. J'avais la naissance de mon fils en 1981. Donc, à ce moment-là, j'ai eu du temps pour rêver mon fils. J'ai pris du temps pour mon fils, qui avait bien raison de vouloir sa mère près de lui à cette époque-là. Puis à ce moment-là, ça m'a permis, moi, dans cette transition-là, j'ai fait d'autres travaux, j'ai fait même du bureau. Toutes les artistes ont une période où on devient waitrice, serveuse, où on devient secrétaire. Oui, j'ai travaillé dans les bureaux, dans les agences de bureau, travaillé 3 semaines par ici, 6 semaines par là. Et
donc, il faut faire preuve d'humilité, parce qu'on a connu le succès, on a connu la foule, on a connu le public.
Et le pire, moi, c'est que le monde me reconnaissait dans les bureaux. Moi, j'ai trouvé ça, c'était le pire. Comment ça se fait que je me retrouvais dans les bureaux? Et les gens me reconnaissaient par ma voix. Même pas par mon visage, j'ai une voix caractéristique. Les gens me reconnaissaient par ma voix. Ah, j'ai dit, vous me reconnaissez. Je faisais tout pour pas me faire reconnaître. Mais on me reconnaissait. Mais c'est moi, de 2-3 années de bureau, qui m'ont fait repenser à une autre direction, qui m'a dit, non, je peux pas. Tous les matins, quand j'ouvrais l'ordinateur, j'avais envie de pleurer. Donc, j'ai dit, non, c'est pas ma place ici. Alors, c'est comme ça que j'ai pensé à créer un spectacle pour enfants.
Alors, on va pouvoir en parler de ce spectacle, mais auparavant, vous nous avez choisi une belle pièce, un classique de l'album jaune de Jean-Pierre Ferland.
Pourquoi? Il faut que je vous le dise pourquoi.
Bien sûr.
Après ou maintenant?
Maintenant.
J'ai choisi Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland parce que le musicien qui m'accompagne, le guitariste qui m'accompagne, c'est Michel Robidoux. Et c'est lui qui a fait la musique.
Le fils de Ferland.
Le fils de Fernand Robidoux qui travaille avec moi maintenant, j'ai cet honneur. C'est lui qui a créé la musique. Donc, c'est pour faire connaître que je travaille vraiment avec une équipe extrêmement professionnelle et très compétente et beaucoup, très talentueuse.
Et quelle belle chanson que cette chanson de Fernand.
C'est un classique. Je connais donc le créateur de cette chanson.
Le Petit Roi.
Oui.
Une chanson qui ne se démode jamais avec nous, Madame Gaëtane Breton, d'autrefois du groupe Breton Cire, mais qui aujourd'hui fait toujours du spectacle, mais cette fois auprès des enfants, et particulièrement, peut-on dire, du spectacle historique?
Oui. Oui, le spectacle historique, c'est curieux. C'est curieux, puis c'est logique à la fois. T'sais, parce qu'avec ma chanson traditionnelle, je parle toujours de l'histoire, finalement, du passé. Et donc, ça m'a amené directement à cette tangente, à travailler l'histoire, la rendre accessible aux enfants.
Alors, parlez-nous de ce concept de spectacle pour enfants. Quel est-il?
Donc, pour commencer, les premiers spectacles que j'ai faits, c'est faire connaître tout simplement la musique traditionnelle et contes traditionnels aux enfants, avec mon histoire de Poil et Plume, par exemple. Sur les traces de Poil et Plume, j'ai fait mon premier disque pour enfants à l'an 2000 sur les traces de Poil et Plume. C'est un conte traditionnel du bas du fleuve qui venait du père de Richard Cyr. Je trouvais tellement belle cette histoire, j'ai dit, il faut faire quelque chose avec ça. Donc, ce qui fait que j'ai créé tout un spectacle avec ça. Puis après ça, après l'an 2000, à l'an 2000 aussi est arrivé un autre coup de théâtre pour moi parce que je me suis mariée. Je me suis mariée avec un Anglais.
Alors ça, c'est une belle pièce.
Oui, c'est pas très québécois. Mais un British, un vrai Anglais d'Angleterre. Donc, et c'est lui qui m'a dit, comme tu fais de la musique traditionnelle, c'est qui est devenu mon gérant d'ailleurs, il m'a dirigée vers l'histoire. Moi, j'aurais même pas songé. C'est lui qui m'a fait réaliser cette suite logique. Parler de la Nouvelle-France, de l'histoire, des immigrants.
Mais déjà, j'allais dire, si on revient aux origines du groupe Breton Cire, où la musique traditionnelle était vraiment ce qui alimentait ce duo, c'est aussi l'histoire.
Oui, c'est pour ça. Ouais. Donc, lui, c'est lui qui a vu plus loin que cette histoire de base. Moi, je parlais de mes ancêtres, je parlais surtout plus près de moi, de mes, mon histoire personnelle. Mais celui qui m'a amené dit, il faut absolument faire connaître l'histoire, ça prend un anglais pour me dire ça, faire connaître l'histoire du Québec aux enfants québécois. Elle parle,
comme Félix Leclerc qui racontait que c'était son professeur d'anglais qui lui avait fait prendre conscience de l'importance de préserver sa langue.
Ah, ça, je savais pas ça. Ouais. Même les cailloux, j'ai entendu ça. Les cailloux, tu sais, c'était... Moi, c'est les premiers qui m'ont fait connaître la musique traditionnelle. C'est les cailloux, ça, les années 68. Oui. Eh bien, c'est leur professeur d'anglais aussi.
Oui.
Ça fait trois exemples.
C'est hallucinant, quand même.
Oui, c'est hallucinant.
Alors, le conte vous amène à parler d'histoire. La pièce de théâtre, elle est faite de personnages, de marionnettes.
Oui, parce que c'est ma dernière production que vous parlez, là. Je fais les aventures de Samuel de Champlain. Alors, je raconte toute l'histoire de Samuel de Champlain, de sa naissance jusqu'à sa mort, oui. Puis accompagné de deux musiciens chevronnés, dont Michel Robidoux et Gilles Plante de l'ensemble Claude Gervaise, oui. Donc, même les musiciens incarnent des personnages. Moi aussi, j'incarne quelques personnages, mais c'est moi qui est la raconteuse. Et je chante. J'ai créé 9 chansons quand même avec ce spectacle-là qui raconte l'histoire de Samuel de Champlain, les meilleurs moments, les moments que j'ai considérés, moi, les plus intéressants pour approcher les enfants. Mais finalement, c'est ce spectacle-là que j'ai misé pour les enfants. Mm-hmm. Ça intéresse toute la famille parce que les grands comme les petits, ils trouvent leur intérêt. Tout le monde apprend l'histoire en même temps. Quand les parents viennent me voir avec leurs enfants, là, même eux se sont étonnés d'apprendre quelque chose qu'ils ne viennent pas seulement pour distraire leurs enfants. Ils viennent, eux aussi, les parents, apprendre quelque chose de l'histoire.
Parce qu'on sait très peu de choses, bien souvent, sur sa propre histoire.
Oui. Même moi, quand j'ai commencé, j'ai travaillé 5 ans sur l'histoire de Samuel de Champlain.
Oui.
Je suis partie quasiment de zéro. Moi, j'avais l'histoire du passé quand j'étais à la petite école. Mais on sait très peu de choses de Champlain.
On se souvient d'Hélène Boulay.
Oui, d'Hélène
Boulay. Et ça s'arrête souvent là.
Oui. Et donc, la grande surprise quand j'ai découvert Samuel de Champlain, c'est que j'ai découvert une véritable nature d'un héros. Il me semble qu'il nous en manque des héros au Québec. Puis ça c'en est.
Donc, un véritable modèle.
Un véritable modèle.
On va pouvoir y revenir.
Oui.
Vous disiez que vous travaillez avec un membre de l'ensemble Claude Gervaise.
Oui, c'est un autre honneur, qui connaît les instruments de l'époque.
Voilà.
De Samuel de Champlain, un spécialiste.
Oui, l'ensemble Claude Gervaise qui s'est effectivement spécialisé dans le répertoire de la musique, parfois de la Renaissance jusqu'à la période de la Nouvelle-France.
Oui, oui.
Vous allez nous faire découvrir une pièce de cet ensemble qui s'appelle Les Magdelonettes.
Oui.
Et ça évoque pour vous particulièrement.
Mais c'est juste pour faire connaître le son. Ça évoque l'ensemble Claude Gervaise. Point. La beauté des arrangements. Juste quand on sortit ça, là, l'ensemble Claude Gervaise, c'est à la même époque que Breton Cire des années 70. C'était un choc, ça aussi, les mensuels qui sont... On connaissait pas cette musique de cette époque-là.
Mais ils ont même adapté des chansons de Gilles Vigneault.
Oui, ils l'ont déjà fait.
Ouais. À la manière ancienne.
Moi, c'était un coup de cœur, mensuel des années 70. C'était une découverte incroyable. Hein? C'est quoi cette musique ancienne?
Alors, l'ensemble Claude Gervaise qui interprète les Magdelonettes. De retour à l'émission Au gris du temps, seconde demi-heure avec nous aujourd'hui, Madame Gaétane Breton. Vous parliez de Samuel de Champlain précédemment et vous disiez que c'était un véritable héros. Pourquoi?
Oui, pourquoi? Parce que si Champlain n'avait pas passé par ici, la Nouvelle-France n'aurait pas existé. C'est lui qui a donné l'enthousiasme, la ferveur de la Nouvelle-France au roi Henri IV et le roi Louis XIII. Et c'est lui qui a combattu les Anglais, les Kirk. C'est lui qui était tenace parce que... Moi, ce que je veux faire réaliser au monde, c'est Champlain, parce qu'on, des fois, on se met à douter de ce personnage. Mais moi, je dis, non, il ne faut pas, parce que si Champlain, en 1629, n'avait pas combattu les Anglais, il a perdu la guerre à ce moment-là. En 1629, il est obligé de quitter l'habitation Québec et tout ça, parce que c'était une cause perdue devant les Anglais. Mais quand il est retourné en France, il s'est rendu compte que la prise de Québec par les Kirk était illégale, étant donné que la paix était déjà rétablie entre la France et l'Angleterre depuis 6 mois. Ils ne savaient pas, eux autres, les Kirk en Nouvelle-France, que la paix était rétablie. Les nouvelles n'allaient pas vite dans ce temps-là. Donc, ils ont combattu Québec pendant que la paix était rétablie entre la France et l'Angleterre. Donc, Champlain a fallu recueillir devant le roi Charles Ier pour leur dire, hey, c'est nous autres, c'est une guerre illégale, redonnez-nous la Nouvelle-France. Mais si Champlain n'avait pas été tenace comme ça pour plaider, combien de fois retours d'aller en Angleterre? Non, c'est à nous. On l'aurait perdu à ce moment-là. Donc, grâce à la ténacité, donc à force de dire, cogner à la porte, c'est à nous la Nouvelle-France, c'est à nous autres, c'est une guerre illégale. Après 3 ans, ils ont reconnu que c'était légitime, que la France retrouve sa Nouvelle-France. Donc, grâce à ça, Champlain est retourné en 1632 à son habitation. Il retournait chez lui, hein, parce que pour lui, c'était chez lui, Québec. Puis la Nouvelle-France a existé, grâce à lui, un autre 150 ans. Et c'est grâce à ça que Louis XIV, 30 ans après la mort de Champlain, eh bien, c'est là que les grandes familles sont arrivées. Toutes les familles sont arrivées.
Mais Madame Breton, comment fait-on, parce que c'est fascinant ce que vous nous racontez là, on redécouvre.
Oui, c'est ça que je
raconte. On redécouvre notre,
ouais,
histoire. Ouais. Comment réussit-on à transmettre des, faut bien le dire, des choses qui sont quand même relativement complexes pour un enfant, tous ces jeux de relations, ouais, de pouvoir. Ouais, ouais, ouais. Comment réussit-on à leur faire prendre conscience de l'importance du personnage ou encore de l'importance de cette époque qui est celle de leur pays, l'histoire de leur pays?
Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce spectacle-là, pour leur donner l'importance, donner enfin l'importance à ce personnage-là. D'ailleurs, dans mon spectacle, il a fallu que je conçoive. Il y avait tellement d'idées, là, c'est quand même long,
c'est
la Nouvelle-France.
Alors, comment vous réussissez à capter leur attention?
Il a fallu écrire, couper, animer. Il a fallu vraiment trouver les phrases clés, les chansons aussi qui sont animés pour que les enfants puissent chanter avec moi, pour que l'histoire rentre, trouver des mots simples, comme dans Moi j'aime, j'écris un hymne à chanter, Moi j'aime Champlain, c'est pour que les enfants aient un cri du cœur, Moi j'aime Champlain. Je voulais qu'il y ait une spontanéité, un cri du cœur, qu'ils reconnaissent, alors reconnaissent la beauté de ce personnage qu'on a décrié parfois. Mais quand on commence à rechercher le fond de l'histoire...
Et vous réussissez à capter leur attention.
Oui. Grâce à mes costumes de l'époque de la Nouvelle-France, voilà. Grâce aux personnages créés par... grâce aux instruments anciens joués par Gilles Plante. Il joue de la vielle à roue, cornemuse, diverses flûtes. Alors, grâce à ça, mon musicien Gilles Plante incarne aussi Samuel de Champlain.
Donc, c'est un spectacle multiforme, c'est-à-dire chant, musique,
oui, c'est ça,
texte,
animation. Et je le fais même au petit de 5 ans. Hein. Quand je vais dans une école, je le fais de 5 ans à jusqu'à la 6e année.
Alors, vous parcourez les écoles du Québec?
Oui.
Avec ce spectacle?
Oui, j'adore ça, oui.
Et la réponse, spontanément, elle est vraiment généreuse de la part des enfants?
Oui. En général, oui. Il y a toujours des enfants qui boudent un peu l'histoire, mais en général, oui, on réussit à les attirer. Il y en a... Chaque enfant, les plus vieux, ce qu'ils aiment, c'est voir les instruments anciens, qu'on explique d'ailleurs. On a un atelier d'instruments anciens. Ça les captive tout le temps. Les plus jeunes, c'est souvent les costumes. Je mets une légende aussi, la légende du gougou. C'est Et pour d'autres, c'est l'ensemble, c'est l'histoire de d'amour entre Hélène et Samuel de Champlain. Il y a plusieurs éléments pour capter un peu la personnalité de chaque enfant. Oui.
Parlez-moi donc de la prochaine pièce que vous avez sélectionnée pour nous, qui est de Dorothée Hogan.
Dorothée Hogan, oui, j'ai choisi la grondeuse parce que j'ai déjà formé parmi mon parcours depuis la mort de Richard, depuis 20 ans, ça fait déjà plus longtemps que je suis seule qu'accompagnée par Richard Cyr. Puis Dorothée Hogan était vraiment pour moi un parcours, une personne très importante. C'est elle qui m'a reguidée vers la musique, qui m'a redonné le goût, qui m'a redonné la confiance. J'ai eu une époque où j'avais plus confiance, personne n'aimait la tradition. Puis elle aussi, c'est une autre, une Américaine, elle, Dorothée Hogan. C'est elle qui m'a redonné le goût de rechanter le folklore québécois. Une autre Anglaise.
C'est vraiment, comme nous disions précédemment,
c'est
hallucinant.
Hallucinant.
Alors, la grondeuse, Dorothée
Donc,
Hogan.
Donc, j'ai formé un trio qui s'appelait Les Grondeuses, avec elle.